Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme, heureux de vous parler aujourd'hui pour cet épisode spécial où on va mettre la table pour le tournoi de hockey masculin des Jeux olympiques d'hiver Milano Cortina 2026. Donc, gros épisode. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'en vient, les formations, quelles équipes ont le plus de chances de remporter une médaille, est-ce qu'on va avoir droit à un match revanche de la confrontation des quatre nations entre le Canada et les États-Unis. On parle de tout ça aujourd'hui avec mes deux collègues, Guillaume Lepage. Salut Guillaume!
Salut Nick!
Et Jean-François Chaumont. Salut JF!
Bonjour Nick et Guillaume!
Bien heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va être transparent avec tout le monde qui nous écoute. Le balado est disponible depuis vendredi matin, mais en réalité, on a enregistré ça un petit peu plus tôt dans la semaine. La raison est simple. JF, fallait que tu te rendes à Milan. T'as un vol d'avion, devrais-je dire, à prendre dans les prochaines...
La prochaine fois, le décor sera un peu différent. Ce sera chambre d'hôtel du côté de Milan.
Exactement, parce que des balados pour les Olympiques, on va se parler souvent, toi et moi, Guillaume aussi, qui va pouvoir embarquer s'il est disponible entre ses vacances, on verra bien, parce que gars occupé est Guillaume avec sa... on le sait, Guillaume, les Olympiques, il sort ses skis, il va skier, il se prend pour
Ça m'inspire. Je vais aller faire des bosses, je pense.
Le talent n'y est pas. Là-dedans. Le talent n'y est pas, mais l'effort y est.
Trouver des bottes de ski, c'est pratiquement ça. Une médaille olympique ou un podium, parce que c'est assez rare de cette grande.
D'ailleurs, bonne anecdote par rapport à ça, j'avais eu un rabais de 50% sur mes bottes de ski. Parce que
ça faisait 4 ans qu'ils traînaient.
Qui avait à peu près 4 pouces de poussière, qui sont allés chercher dans le fond de l'entrepôt. Ils ont dit là, ça va débarrasser, exact. C'est pas la couleur que j'aurais souhaité, là, mais
Mais la réalité, exact. C'est que Guillaume, une fois qu'il a ses bottes, il n'a pas vraiment besoin de ski parce qu'on s'entend qu'à la longueur de pied qu'il a, il y a quand même beaucoup de surface. Surtout, je veux dire que tu ne mets pas beaucoup de poids, tu n'es pas super gros non plus. Donc, d'après moi, là, tu peux skier juste en bottes. Mais oui, effectivement, JF, tu vas être à Milan. Tu vas couvrir le tournoi pour LNH.com. En plus de tous nos correspondant. Donc, les gens, si vous voulez de l'information sur ce qui se passe durant le tournoi, on va être là pour vous, LNH.com. Ratez pas ça. Grosse couverture, nos journalistes qui sont là, dont JF, pour ce qui est de tout ce qui est la couverture francophone du tournoi. Pas qu'il va y avoir beaucoup de Québécois dans la place au niveau d'équipe Canada, mais il va y en avoir avec l'équipe de la France. Pas des Québécois, mais des francophones avec la France, avec la Suisse, même un avec l'Italie. On va vous en parler plus tard. Donc, suivez-nous, suivez le balado sur vos plateformes d'écoute, tout ça sur nos réseaux sociaux pour être certain de ne pas rater le moindre épisode avec JF et moi, JF en direct de Milan. Les gars, enfin, les joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey qui sont de retour aux Olympiques, ça datait la dernière fois de 2014. C'était un processus qui était long, qui était ardu, ramener les joueurs olympiques, mais c'est fait et je ne sais pas vous autres, là, mais moi déjà, juste à en parler, j'ai un petit peu la chair de poule. Je me souviens des Jeux. Tu sais, c'est Vancouver. Personnellement, moi, c'est vraiment les Jeux de Vancouver qui m'ont marqué. Sochi avait tellement été une marche dans le parc pour le Canada. Vancouver avait été plus difficile et on s'attend un peu encore une fois à ça parce que les États-Unis, comme en 2010, ont une excellente équipe. Ça s'annonce comme tout un tournoi. On se lance. D'ailleurs, ça va commencer le tournoi en tant que tel. Bien là, le tournoi, il y a comme des petites phases. Ça va être par groupe. Le tournoi, l'horaire qui commence le 11 février avec un duel Finlande-Slovaquie. Pour la France, la Suisse, on commence ça, un duel France-Suisse pour nos amis de l'Europe qui va avoir lieu 6h du matin, heure de l'Est. Un peu plus tard, bien évidemment à midi du côté de l'Europe, le 12 février. Et par la suite, tout de suite après, le Canada qui va affronter la Tchéquie. Donc, directement pour les gens qui nous écoutent, là, c'est les deux duels en partant. OK. Le format, trois groupes qui s'affrontent. Les groupes en tant que tels,
je les connais par cœur.
Vas-y, bien oui, c'est ça. Je les avais dans moi, comme de fait.
Canada, Tchéquie, Suisse, France. Groupe B, Suède, Finlande, Slovaquie,
Italie.
Et l'Italie, donc le pays hôte. Et groupe C, États-Unis, Allemagne, Lettonie, Danemark.
quand on regarde ça en partant, il me semble qu'il y a un groupe qui est un petit peu plus de la mort et il y a un groupe qui est beaucoup plus facile.
Oui, le groupe B. Le groupe B avec Suède, Finlande, Slovaquie est peut-être le groupe de la mort. Les États-Unis, Allemagne, Lettonie, Danemark, peut-être l'Allemagne. C'est un groupe assez facile pour les Américains. Puis même du côté canadien. Mais le côté canadien, la Tchéquie et la Suisse peuvent causer des surprises à ce tournoi. Bonne chance à nos cousins français, par contre, là, avec un seul joueur de Ligue nationale, Alexandre Texier.
Puis il est amoché, on va en parler. France-Canada,
qui est une blessure au bas du corps dans le
cas
de Texier.
Ce serait toute une histoire, par contre.
Ah oui.
Puis avec Pierre-Édouard Bellemare, 40 ans, ses premiers Jeux olympiques, le récit pourrait s'écrire tout seul, mais il y a parfois une différence entre le fictif et la réalité. Donc, on verra.
Soyons frères, je pense pas que Euro-Disney va s'inviter au jeu. Là. Ça s'annonce pas comme un scénario de la sorte. Bon, on vous parlait, il y a trois groupes. Tout le monde passe à la ronde suivante. Il va y avoir ensuite, on appelle ça bon, les trois meilleures équipes de chaque groupe.
Exact, il y a des exceptions. Là. Si tu termines en tête de ton groupe, tu gagnes automatiquement un billet pour les quarts de finale.
Exactement.
Il y aura également le meilleur deuxième qui passe directement en quart de finale. Puis après ça, tout ce beau monde, dans le fond, les équipes qui n'ont pas terminé au sommet du classement ou meilleur deuxième, s'affrontent dans un tour barrage. Donc, il n'y a aucune élimination après le tour préliminaire. Mais dépendamment de ton rang, si tu as terminé deuxième de ton groupe, bien, tu vas affronter une équipe qui est terminée au quatrième rang, etc. Donc, le tour barrage, 8 pays pour 4 places en quart de finale, les 4 places restantes. Donc, à partir des quarts de finale, là, ce sera élimination directe pour la suite du tournoi olympique.
Donc, même si tu perds un match, le différentiel de points puis tout ça, ça va être très important. Puis ça va aller rapidement, là, parce que...
c'est 3 matchs en 4 jours, généralement.
En l'espace de 5 jours, là, c'est exact, ça. Là, donc, 3... ça va aller rapidement pour la ronde préliminaire. Non, on va en voir beaucoup, là. Les Olympiques, c'est tout un incroyable fête, mais là, le tournoi de hockey va être vraiment relevé. Et ensuite, bon, quart de finale, et ça suit comme on est habitué. Allons-y, on va parler de la formation canadienne. Le Canada, qui est favori pour l'emporter, selon les parieurs au livre. C'est une formation qui est équilibrée, qui a quand même beaucoup de puissance au top avec Connor McDavid, avec Nathan MacKinnon, qui sont les deux meilleurs marqueurs de la Ligue présentement. Cale Makar qui se dirige vers un autre Norris. La question est vraiment devant les filets. Et là, Guillaume, bien évidemment, toi, tu es allé à Tampa Bay le week-end dernier et t'en as profité pour discuter avec Julien Brisebois, qui est adjoint au directeur général de la formation canadienne. Tu ne pouvais pas mieux tomber, disons-le, que de parler à Julien Brisebois. Comment on se sent présentement là, du côté de Brisebois quelques jours du début des Olympiques?
Ben ça m'a surpris parce que c'était la première question de mon entrevue. Puis il dit on a encore 3 matchs à disputer avec le Lightning. Il est encore 100% avec son équipe. Puis en plus, je lui ai parlé au premier entracte du match de la série des stades. Donc on était en plein milieu d'un match aussi. Fait qu'il était vraiment.
Qui allait pas super bien à ce moment-là.
Non,
en plus,
c'est ça. Ça allait pas très bien, mais Julien était très, très sympathique. Mais non, c'est ça. Il est pas passé encore en mode olympique à 100%, mais il disait que bon, là, il y a encore beaucoup de rencontres, même si la formation est annoncée à la fin du mois de décembre, là, encore beaucoup de rencontres entre les dirigeants. On fait des scénarios, on s'informe de l'état de santé de certains joueurs qui représentent peut-être des cas douteux en raison de blessures. Lui est encore en mode discussion, mais il se sent quand même un peu fébrile à l'idée de s'envoler pour Milan. Il dit, tu sais, oui, le travail est fait en grande partie, mais là, c'est la portion inconnue qui va être de voir ce que l'équipe va réussir à faire sur la patinoire, puis voir si ce qu'on a imaginé sur papier va se transposer sur la glace en résultat. Donc, il y a très peu... c'est comme les dirigeants laissent partir le bébé un peu. Là, on met ça entre les mains des entraîneurs pour la formation des trios, les responsabilités et tout ça. Puis on se croise les doigts, mais tu sais, Julien Brisebois disait... le résultat va teinter notre expérience. Ça va être une expérience mémorable, mais si on ne gagne pas à la fin, on va s'en souvenir comme l'édition où on a échappé la médaille d'or là, aux Olympiques.
C'est l'or, soyons francs, c'est l'or ou rien pour le Canada aux Olympiques, aux championnats mondiaux juniors, peu importe, c'est là ou rien, puis ça se voit dans les résultats. Tu sais, regardez en 2006 à Turin, on n'avait pas remporté de médaille, je me trompe pas, Turin, non. Puis en 98 non plus, on n'avait pas gagné. Lorsqu'on avait perdu contre la République tchèque, on appelait ça la République tchèque à l'époque, et Dominique Hašek, on avait perdu ensuite en finale en finale de bronze, devrais-je dire, contre la Finlande. C'est clair que c'est là ou rien, autant pour les partisans, les amateurs, autant pour l'équipe en tant que telle. Il n'y a pas d'autre option, là.
Mmh. Non, puis quand tu regardes cette formation sur papier, c'est normal de rêver à la médaille d'or. Quand tu as Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Macklin Celebrini, Cale Makar, tu y vas pas pour le bronze. Il n'y a aucun doute, c'est une équipe hyper, hyper talentueuse. On a eu l'avant-goût avec la confrontation des quatre nations. Le Canada qui a réussi à triompher des Américains en grande finale, un but de McDavid en prolongation du côté du TD Garden. Donc, on revoyait un petit peu le scénario, le but en or de Sidney Crosby quelques années plus tôt. Crosby, c'était en 2010 à Vancouver. Là, tu transposes, on est quoi, 2010, 2026, 16 ans plus tard. C'est une première fois aussi que les joueurs de la Ligue nationale y participent depuis 2014, donc une attente de 12 ans. Tu as toute une génération de joueurs là, qui ont été privés des Jeux olympiques, à commencer par McDavid, par MacKinnon, par Jack Eichel avec l'équipe américaine, les frères Tkachuk. Donc, tu devrais logiquement croire à une rencontre au sommet entre le Canada et les États-Unis, mais on en a déjà parlé à ce balado. C'est possible aussi de voir un parcours où les Canadiens et les Américains ne s'affrontent jamais, si jamais une des deux formations devait tomber en quart de finale. Il y a des pays qui aspirent, la Suède, la Finlande, peut-être ajouter la Tchéquie à ce groupe, la Suisse qui sur papier, les Allemands peut-être, qui ont le potentiel, le temps d'un match, de créer une surprise. Donc ça, c'est ce qui fait la beauté de ce tournoi. C'est une formule qui ne pardonne pas non plus. C'est un seul match. Donc si tu as un gardien qui est héroïque le temps de 24 heures, le temps d'un match, donc ça peut changer le résultat final.
La question, bien évidemment, du côté canadien, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la situation des gardiens de but? Votre opinion, quand on en a parlé, quand on a fait le balado, lorsqu'on a eu la publication des formations le 31 décembre, c'était Jordan Binnington, le filet lui appartient pour ce qui est arrivé à la confrontation des quatre nations en finale où il a excellé.
Mais il y a un filet plus à perdre qu'à gagner.
Oui,
à mon
c'est ça. Mais pour commencer le tournoi, c'est à Jordan Binnington que ça appartient. Mais là, Jordan Binnington, cette année... 8 victoires, 16 défaites, 6 défaites en prolongation fusillade, même pas 10 victoires. Moyenne de buts accordés à 3,60, pourcentage d'arrêt à 8,66. C'est simple. Là. Jordan Binnington est un des pires gardiens de but de la Ligue nationale cette année. Est-ce que depuis un mois, votre réflexion a évolué à ce sujet-là? Quand on regarde ce que Logan Thompson fait chez les Capitals, puis Darcy Kuemper qui est le troisième gardien d'équipe.
Non, je pense pas de mon côté, là, parce que j'ai un peu le même discours qu'il y a un mois. Je veux dire, si Jordan Binnington amorce le tournoi olympique puis est moindrement ordinaire contre une équipe comme la Tchéquie, mettons, ou les autres équipes un peu plus faibles du groupe, je pense qu'on va se tourner rapidement vers Logan Thompson. Mais si Jordan Binnington fait le travail... Je pense que ça va être son filet jusqu'à la fin du tournoi parce qu'on sait ce que Jordan Binnington va nous donner sous pression. Logan Thompson, c'est encore un point d'interrogation par rapport à ça. T'sais, est-ce que dans un gros match avec de la pression, va s'écrouler? On ne sait pas. Mais Jordan Binnington, oui, pas de statistiques très impressionnantes cette année, mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi l'équipe derrière laquelle il joue. Les Blues, c'est pas plus facile non plus cette saison. Donc, je pense qu'il faut lui donner la chance derrière une équipe qui va être très, très dominante, une brigade défensive qui ne laissera pas beaucoup de chances de qualité, de montrer ce qu'il est en mesure de faire. Il le fait aux quatre nations. Pour ma part, on lui donne une autre chance de conserver son filet.
Autre point, si on avait voulu y aller d'une direction différente devant le filet, les statistiques de Jordan Binnington étaient atroces fin décembre quand on a choisi la formation canadienne. Elles sont toujours atroces au mois de février, à quelques jours de l'aventure olympique. Donc, ils ont clairement confiance en Bennington. C'est lui qui a gagné la médaille ou le trophée pour la confrontation des quatre nations. Puis si tu regardes l'horaire, pour Jordan Bennington, c'est un petit peu le défi, là. Dès le premier match, c'est la Tchéquie sur la route du Canada. Donc, techniquement, les Tchèques, sans manquer de respect aux Suisses et aux Français, les Tchèques représentent les rivaux les plus sérieux dans ce groupe pour les Canadiens. Donc, si Bennington connaît un bon départ, s'il est rassurant, je pense que tu ne te poses même pas la question, puis Bennington suit contre les Suisses au match suivant. Ensuite, peut-être contre les Français, tu peux changer de gardien, mais là, dans un si court tournoi, je serais surpris. Tu risques d'y aller avec le même gars devant le filet. Mais si Bennington est chancelant contre les Tchèques, c'est peut-être là que la porte s'ouvre pour un Logan Thompson qui, lui, aurait ensuite des départs contre la Suisse et la France. Donc, je trouve que la façon que le tour préliminaire est conçu pour le Canada, tu risques d'obtenir ta réponse très, très rapidement. Il faut aussi avoir en tête que l'an dernier, même s'il y avait eu beaucoup de spéculations à savoir est-ce qu'il va y avoir un changement devant le filet de l'équipe canadienne, est-ce qu'à l'époque c'était Aiden Hill ou Samuel Montembeau, est-ce que Aiden Hill va obtenir un départ? Je crois que dans l'esprit de John Cooper, des dirigeants de l'équipe canadienne, la réponse était plus claire que dans l'esprit des partisans.
Absolument.
Ils avaient choisi de miser sur Jordan Bennington. C'était tu gagnes ou tu perds avec Jordan Bennington.
Juste répéter, Jeff, tu peu importe ce qui arrive avec Jordan Thompson, avec Logan, voyons, pas Logan, Logan Thompson, Jordan Bennington,
ouais.
Ils les mélangent ensemble. Peu importe ce qui arrive avec Jordan Bennington dans le premier match, tu le renvoies-tu le lendemain si ça va bien? Ou parce que là, c'est deux matchs en deux jours, ou dès le deuxième, peu importe ce qui arrive, tu envoies un autre gardien pour le deuxième match, comme dans la Ligue nationale.
Là, tu as la question du deux matchs en deux jours dans un court tournoi. C'est un bon point que tu apportes, Nick, mais je suis.
Merci.
En même temps, je pense que tu veux y aller avec le gardien qui va te permettre de. Tu sais, c'est.
Non, parce...
les matchs vont venir à répétition, vont venir souvent. Puis c'est un deux matchs en deux jours. Mais l'équipe canadienne, techniquement, est une équipe hyper puissante. Ils ont de bons défenseurs aussi. Carey Price, du côté de Sochi, là, avait pas besoin de faire 42 arrêts par match. C'était une structure hyper défensive avec l'équipe de Mike Babcock. Je crois que même s'ils ont des chevaux pour gagner puis y aller de matchs très offensifs, ils ont aussi de très bons joueurs défensifs. Donc, si Bennington reçoit plus de 20 tirs contre la Tchéquie, ce sera déjà un bon nombre de tirs. Je pense que tu risques d'encercler un nom puis tu vis ou tu meurs avec lui.
Sauf
s'il est mauvais contre la Tchéquie.
Mais l'autre point, c'est que si tu changes de gardien dès le lendemain, mais là, tu ouvres quand même la porte à de la spéculation par rapport à qui est ton numéro un. Puis tu sais, je veux dire... Logan Thompson aurait le match le plus facile, entre guillemets, des deux. Puis là, s'il fait un blanchissage, un jeu blanc au deuxième match, là, est-ce que tu reviens ensuite de ça avec Jordan Bennington au troisième?
Je pense pas qu'on va voir comment ça joue au yo-yo, là.
C'est ça, exactement. Je pense que...
Non, mais
à moins que Bennington soit vraiment mauvais contre la Tchéquie, là, mais sinon, je pense qu'on va y aller...
Ou tu l'appelles d'avance. Tu dis premier match, Jordan Bennington. Mm-hmm. Quand, une fois que le match est joué puis tu as vu le résultat, tu as vu ce que Bennington a fait, tu peux dire demain, c'est Logan Thompson. Match suivant contre la France, ça va être Jordan Bennington. Tu viens de régler le dossier. Peu importe ce qui arrive avec Logan Thompson dans le deuxième match, tu as vu Logan Thompson à l'œuvre. Parce que si Thompson a rentré finalement, tout dépendant des quarts de finale ou peu importe, parce que ça n'aura pas bien été pendant... Bon, tout dépendant de ce qui se passe, là, on le sait, là, avec la ronde de qualification, Thompson va avoir joué au moins. Va avoir vécu c'est quoi du hockey olympique. Ce que, puis on le disait, il l'a pas vécu encore. Tu me diras, ça va être contre la France. C'est pas le plus gros défi, là, mais quand même... non, excuse, ça va être contre la Suisse. Donc,
ouais,
on en verra dans le deuxième match. Déjà là, c'est un défi plus intéressant. Mais oui, moi, je pense que c'est ça que je ferais. J'irais avec Jordan Bennington. Deuxième match, Logan Thompson. En mettant le plan clair, ça va être qui pour le troisième match?
Moi, j'ai...
Mais c'est une patate
chaude. J'irais avec Bennington les deux premiers matchs, à moins d'une contre-performance dans le premier. Puis le match facile du groupe contre la France, tu le donnes à Logan Thompson pour lui permettre de se dégourdir les jambes. Puis ça ouvre la porte à rien parce que Bennington a joué les deux premiers matchs. Logan Thompson, on lui donne un peu d'action contre la France, puis après ça, on poursuit avec Bennington. Je pense que ce serait... T'sais, si je me fie à la façon dont l'équipe junior gère habituellement ses gardiens au championnat mondial junior, ça pourrait ressembler à ça. Mm-hmm. Il y a la notion de deux matchs en 24 heures, mais comme Jeff disait, si c'est un match de 18 lancés contre la Tchéquie, il y a peut-être moyen de jouer deux matchs en deux soirs.
Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça va aller vite, le voyagement, que des cas d'entraînement, là, je ne sais pas comment dire ça. Mais au pire, John Cooper a juste la réflexion, juste à dire aux journalistes, ben, c'est le même dans la Ligue nationale aussi. Les gardiens ne font pas deux jours en deux soirs. Vasilevski, c'est pas comme ça que je l'utilise. Fait qu'en tout cas, au moins, on a des échappatoires. On a des manières de s'en sortir, peu importe du côté du Canada, mm-hmm. tout dépendant comment ça va se passer. Les gars, on a reçu Vincent Desharnais, là, quoi, une semaine et demie, là, à peu près là, là, deux semaines, sur le balado, puis on lui parlait de comment il utiliserait ça, comment il ferait sa formation pour les Jeux olympiques, puis il nous parlait beaucoup de duos. Puis je pense qu'il a entièrement raison, Vincent, ça va être des duos. Ça serait quoi vos duos? Connor McDavid, vous voulez le voir avec qui? Nathan MacKinnon, vous voulez le voir avec qui dans ce tournoi-là présentement? Mitch Marner, pareil. Ça serait qui vos duos pour ce tournoi-là?
Ben moi, si tu y vas de duo, je pense que t'as le duo de la Nouvelle-Écosse, Nathan MacKinnon et Sidney Crosby. Puis, je serais vraiment curieux de voir le duo McDavid-McLean-Celebrini. Ton top 4, peu importe qui complétera les trios, les deux premiers trios de la formation canadienne, tu peux choisir un Sam Reinhart, tu peux choisir un Mitch Marner, mais j'ai le sentiment que ça, on pourrait avoir MacKinnon, Crosby, McDavid, Celebrini, puis ensuite, dépendamment de l'état de santé d'un Braden Point, tu vas avoir Nick Suzuki aussi au sein d'un troisième, d'un quatrième trio, tu vas avoir Tom Wilson qui va être là pour frapper, pour jouer du jeu physique. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes et beaucoup d'options pour la formation canadienne.
Toi, Guillaume?
Moi, le combo Crosby-Celebrini, je pense qu'il a quand même bien fait au championnat du monde senior. Il y a quand même une certaine chimie qui s'est installée entre les deux. Tu sais, Celebrini qui est allé s'entraîner en Nouvelle-Écosse pendant quelques jours là, cet été avec Sidney Crosby. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est développé entre ces deux-là. Puis l'idée d'avoir le vétéran Crosby qui passe un peu le flambeau à Celebrini en jouant sur le même trio, bon, ça, c'est plus pour l'histoire que les journalistes préféraient, là. Mais tu sais, je veux dire, je pense que l'image est forte. Puis sur la glace, ça pourrait donner des résultats très, très intéressants, j'ai l'impression. Là, le vieux qui joue avec le jeune, je pense qu'on pourrait avoir la passation du flambeau. Puis l'autre duo, ben, tu sais, un MacKinnon, McDavid, je pense que ça serait assez spectaculaire aussi. Là,
ça dépend comment tu vas placer tes pions. Est-ce que tu places McDavid, MacKinnon, les deux assurément comme joueur de centre.
Ouais, c'est
ou est-ce que tu places Sidney Crosby également comme joueur de centre? Dans le scénario de Guillaume, Sidney Crosby serait probablement le centre avec McLean Celebrini sur le flanc gauche. Mm-hmm. Puis tu pourrais avoir McDavid au centre avec MacKinnon à l'aile. Écoute, peu importe, là, ça reste des options qui sont plus qu'intéressantes pour John Cooper.
Tu sais, Martin Saint-Louis répète souvent dans ses points de presse qu'il dit, à notre époque, la position de centre, à part la mise au jeu, ça n'a pas tant d'importance. Mm-hmm. Fait que, tu sais, oui, il y a cette décision-là, mais je pense pas qu'on va passer 30 minutes à débattre là, du côté des entraîneurs, à savoir qui joue au centre ou pas. Je pense qu'au final, ça va tout s'entrecouper. Puis, c'est pas mal tous les joueurs de centre qu'on a du côté du Canada. Ouais, fait qu'on n'aura pas le choix d'en placer à l'aile aussi. Là.
Aux quatre nations, là, à la fin du tournoi, Sidney Crosby avait un peu ralenti. T'sais, c'est un rythme qui est très élevé pour un gars de son âge. Est-ce qu'on doit faire un peu de load management, là, de gérer peut-être un petit peu ses présences, un petit peu moins de temps de glace pour être sûr qu'il reste efficace durant tout le tournoi?
Ben, je pense que la question se pose pour tous les joueurs, pas juste Crosby, même si Crosby est plus vieux à 38 ans, Sidney Crosby. Mm-hmm. Mais dans le tour préliminaire, il n'y a aucune raison de surtaxer non plus McDavid, MacKinnon, Crosby, Cale Makar. Tu peux, surtout que dans un format international, tu as le droit à 13 attaquants, tu as le droit à 7 défenseurs pendant ton match, donc tu peux reposer certains éléments. Je pense qu'une fois que tu rentres en quart de finale ou l'élimination directe, ton sort est entre tes mains à chacun des matchs, ça devient différent. Mais tu sais, on parle de gérer Sidney Crosby, c'en est un aussi qui reste infatigable. Il avait peut-être ralenti dans les derniers matchs. Il avait été très, très, très bon en entrée de jeu contre la Suède, le premier match au Centre Bell. Mais Crosby a quand même connu un bon...
peut-être une petite blessure.
Il s'était blessé du côté de Pittsburgh juste avant la confrontation des Quatre Nations. Ça, je me souviens que sa présence, là, on regardait le premier entraînement, puis tu demandais est-ce que Crosby va sauter sur la glace ou non du côté de Brossard. Finalement, il avait été là pour chacun des entraînements.
Mais tu ne veux pas manquer une visite à Brossard de toute façon.
Non, tu ne veux pas manquer une visite, mais je pense qu'on peut quand même dormir tranquille. Crosby va avoir assez d'énergie. Écoute, il attend depuis Sochi. Là.
Ah ouais.
C'est même chose pour Brad Marchand qui va vivre les Jeux olympiques pour une première fois. Marchand a quoi? 37 ans, Brad Marchand? Puis je me souviens d'une rencontre avec lui cet été du côté de Calgary en disant que chaque jour cet été, quand il s'entraînait, quand il poussait de la fonte, il pensait aux Jeux olympiques. C'était ça qu'il avait en tête. Puis quand il avait choisi de se faire opérer il y a 2 ans, l'été, où il jouait encore pour les Bruins de Boston, il avait subi 3 opérations. Puis il disait qu'un des objectifs pour rebâtir son corps, c'était justement 2026, Turin et les Jeux olympiques. Donc, tu as un paquet de joueurs qui écoute, ils veulent vivre les Jeux olympiques. Ils ont cette chance, puis ils ne voudront pas rater ce rendez-vous.
J'ai hâte de voir comment on va pouvoir l'utiliser, Marchand, parce qu'il est encore blessé. Là. Bon, Paul Maurice a dit que sa présence aux Olympiques n'est pas en danger. Mais il y a quelques joueurs amochés dans toutes les équipes. En terminant notre portion canadienne, quelle utilisation pour Nick Suzuki?
Troisième, quatrième trio, rôle défensif, je pense que ça va vraiment être sa niche à lui, du temps de jeu en désavantage numérique. Je vois pas d'autre rôle pour Nick Suzuki, parce que tu regardes le top 6, le top 9 de cette équipe-là. Oui, Nick Suzuki est parmi les joueurs les plus productifs de la Ligue depuis la confrontation des Quatre Nations, mais avec le talent de pointe qu'il y a dans cette équipe-là, je pense qu'on va le placer vraiment dans un rôle plus défensif avec des minutes de qualité là, dans les situations importantes en fin de match et compagnie. Là.
Êtes-vous certain à 100% qu'il va être habillé?
Oui, je serais surpris. Ouais. Je serais surpris du contraire. Pour moi, Nick Suzuki a un pas en avance sur Bo Horvat en date d'aujourd'hui.
Surtout puis, avec ces 2 dernières semaines, soyons
oui,
francs.
Oui, puis c'est un gars qui, tu sais, Guillaume m'a parlé, je suis convaincu, la raison pourquoi il gagne son poste avec l'équipe canadienne, c'est parce que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent, peut jouer en infériorité numérique, puis avec la formation canadienne, va probablement hériter de ce mandat-là. Mais si jamais un Mitch Marner, un Sam Reinhart s'endort et connaît un très lent début de tournoi, bien Suzuki peut remplacer puis venir obtenir une audition au sein d'un trio offensif. C'est un gars qui serait capable de suivre avec les plus grands cerveaux de la Ligue nationale, là, que ce soit McKinnon, McDavid, Crosby. Il y a le IQ hockey, l'intelligence, la vision pour connaître un bon tournoi. Mais je pense que d'une façon plus conservateur, oui, son rôle va être défensif. Peut-être avec un Brendan Eagle à l'aile. Je ne sais pas, je regardais des trios proposés. Là, je déteste pas le trio proposé par les collègues du site anglophone de la Ligue nationale. C'était Brendan Eagle avec Nick Suzuki et Braden Point. On verra pour l'état de santé de Braden Point, mais ce serait un très, très, très bon troisième trio, si c'était le cas, Suzuki avec les 2 joueurs du Lightning.
Oui, oui, oui. On poursuit, écoutez, parce que là, il y a tellement de choses, on va dépasser. Sinon, la Suisse, pensez-vous que c'est une équipe qui peut brouiller les cartes, justement, dans son groupe? Après, Roman Josi, c'est une défensive qui est un peu plus poreuse, un peu plus faible, mais en attaque, il y a quand même, sur les 2 premiers trios, il y a du potentiel. C'est pas des pieds de céleri, là, du côté de la Suisse.
Non, mais Nico Hischier, Timo Meyer, c'est une formation aussi. T'sais, on a toujours décrit la Suisse comme un petit pays de hockey, mais je pense qu'on a dépassé cette étape-là. La Suisse n'est plus uniquement un petit pays de hockey, mérite un plus grand respect. Sur la scène internationale, championnat du monde, oui, ça reste une formule quand même différente de championnat du monde parce que ce ne sont pas nécessairement tous les meilleurs joueurs de chacun des pays qui y participent. Mais ils ont quand même une médaille d'argent en 2025 et une médaille d'argent en 2024. Donc, c'est un pays qui rentre en confiance. Puis je parlais avec Roman Josi, c'est une vieille entrevue.
Comment? Qui se pointe. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu vas gagner, c'est pas les Olympiques, mais tu t'es pointé quand ça comptait.
Oui, exact. Comptait, ils sont capables de jouer du bon hockey dans un grand rendez-vous. Puis l'autre aspect...
Les joueurs qui ont participé au championnat mondial, vu que c'est pas tous des joueurs de Ligue nationale, ils ont une cohésion, une certaine cohésion. Ouais, les gars de la Ligue nationale n'ont pas, là.
Mais ils ont quand même 10 joueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est un pays qui est bien représenté. Puis dans une entrevue qui datait du mois d'octobre avec Roman Yossi, là, d'un passage au Centre Bell, Yossi disait qu'un facteur non négligeable, c'est celui de la géographie. La Suisse, c'est à côté de l'Italie. Donc, s'attend à avoir beaucoup, beaucoup de partisans suisses dans les gradins pour les matchs à Milan. Donc, oui, il va y avoir une ambiance un petit peu comme à la maison. C'est un bon pays qui a un potentiel pour créer une surprise.
J'ai hâte de voir comment on va gérer la situation devant le filet parce que logiquement, tu dis à Akira Schmid est un gardien de national de hockey, ça devrait être lui. Mais on a Leonardo Giannoni qui est un vétéran qui mène justement cette équipe-là jusqu'à la médaille d'argent 2 ans de suite au championnat mondial. Ses statistiques internationales sont incroyables. Soyez pas surpris si finalement c'est lui qui est devant le filet et non pas Akira Schmid. J'ai hâte de voir la Suisse parce qu'effectivement, tu les places contre le Canada, ça va être plus difficile. Contre la Tchéquie, je ne sais pas. Moi, il y a peut-être une possibilité, surtout si on a du jeu.
Je viens de faire le saut, Nick, en voyant l'âge là, de deux des trois gardiens. On a un gardien de 38, un gardien de 39. Eux ne joueront pas deux matchs en deux soirs, ça, c'est pas...
Ben, l'avantage qu'on a, c'est qu'en jouant dans la National League en Suisse, tu ne joues pas 82 matchs par année. Non. Ouais, donc, il y a moyen de te sauver un peu les genoux et un peu les hanches. Là. Tu sais, tu joues, il y en a joué 34 cette année, puis c'est ça. Ces statistiques internationales sont incroyables. J'ai hâte de voir comment on va gérer cette situation-là. La France, est-ce qu'on a une réelle chance d'aller chercher un tout petit point dans ce tournoi-là? Ou avec Alexandre Texier qui est amoché, le reste, c'est une équipe bon, de joueurs qui sont en Europe, un peu partout. On a Bellemare, Pierre-Édouard Bellemare qui vieillit. D'Acosta aussi qui vieillit aussi. L'objectif, c'est quoi? Être meilleur que l'Italie?
Je ne sais pas c'est quoi exactement l'objectif. Tu sais, il faut se rappeler que la France participe au tournoi un peu parce que la Russie n'est pas là.
C'est la raison.
Puis tu sais, je me souviens, je pense que c'était au mois d'octobre, mois de novembre, l'entraîneur-chef Yorick Trey, qui était de passage au Centre Bell, je m'étais entretenu avec lui. Puis tu sais, je pense qu'on est très, très réaliste du côté de la France. Il avait décrit son équipe un peu comme le petit pousset de ce tournoi-là. Là. On va tenter de tenir tête aux grandes nations, mais je pense qu'on est assez réaliste sur le fait que en ce moment, il y a comme un... Tu regardes la formation, il y a des vétérans qui ont déjà joué dans la Ligue nationale, qui ont beaucoup d'expérience. T'as un gars comme Alexandre Texier qui est un peu dans le milieu, mais au niveau de la relève, on dirait que ça vient pas nécessairement... Mm-hmm. En tout cas, pas à ces Olympiques-là. Le groupe de jeunes est un peu discutable, un peu de moindre qualité. Fait que je pense qu'on est très, très réaliste du côté de la France sur nos chances de gagner un match ou peut-être d'en pousser un en prolongation. Là, je pense pas qu'on va là avec de grandes attentes, mais quand même, on a les Jeux olympiques vont avoir lieu en France en 2030. Donc, on a ça en tête. On veut quand même laisser une bonne impression puis peut-être poser les pierres d'assises du projet 2030, tu sais, former un peu, tu sais, Alexandre Texier risque d'être un vétéran rendu en 2030 de cette équipe-là, puis on veut mettre les fondations de quelque chose pendant ce tournoi-là. Donc, c'est certain qu'on ne veut pas arriver là puis manger des volées de 9-0, 8-0, tu sais, ça pourrait arriver, mais l'objectif, c'est d'être compétitif quand même pour se donner un peu d'espoir en arrière.
Un peu d'élan.
30, là.
Ouais. Un peu d'élan. Puis c'est aussi que, moi, ce qu'on m'a dit, c'est au niveau budget, on n'a pas vraiment les budgets pour ce qui aurait dû être un encadrement sur 6-7 ans de l'équipe nationale pour développer des jeunes, mais les budgets ne sont pas nécessairement là. Contrairement à ce qui se fait en Suisse, puis tu sais, le développement des jeunes, c'est loin d'être parfait en Suisse. Il manque un certain niveau junior qu'on aurait bien besoin, mais au moins, on envoie nos jeunes au Canada ou ailleurs en Suède, puis tout ça, puis en Finlande, mais Tandis qu'en France, ce niveau junior-là, le niveau supérieur de développement, on ne l'a pas, puis on en aurait besoin pour mettre sur pied ce qui va s'en venir en 2030. Donc, écoute, si on va chercher un point, on surprend quelqu'un ici et là, ça va déjà être ça là, pour la France. Finalement, ouais, la Tchéquie, on disait que c'était le plus gros rival. Est-ce que vous pensez que David Pastrnak est capable de transporter cette équipe-là sur ses épaules? Puis est-ce qu'on est un peu sous-estimé? Tu sais, comme, parlez-en à l'équipe junior là, canadienne, là, on commence à y trouver de moins en moins sous-estimé, de plus en plus vrai, la Tchéquie. Mais est-ce que c'est justement une équipe qui est à surveiller, la Tchéquie, qui peut sortir de nulle part pour aller chercher une médaille?
Là? Ben écoute, David Pastrnak, c'est un gars qui fait 100 points et plus dans la Ligue nationale depuis quelques saisons déjà. Les Bruins de Boston ne représentent pas une machine de hockey, mais ils sont quand même dans le portrait des séries. Donc, Pastrnak a grandement son mot à dire sur les succès des Bruins de Boston. Donc, oui, c'est possible pour lui d'être le fer de lance de cette équipe-là. Il est excessivement talentueux. Mais je pense qu'il y a Martin Nekhatch également qui sera là, André Palat, Radek Faksa, Thomas Surtell. Ils ont de bons joueurs, mais surtout aussi devant le filet. J'aime bien Lucas Dostal. Dostal qui a déjà gagné un championnat du monde avec les Tchèques. Ils ont quelques défenseurs aussi de la Ligue nationale. Philippe Ronek, Radko Gudas. David Spachek, qui est le fils de Yaroslav, qui a joué un petit peu, mais c'est pas la meilleure brigade défensive.
T'en as même pas parlé. Tu as parlé de Dostal, mais Karel Vejmelka est toujours bien le meneur de la Ligue présentement.
Oui. J'ai été de façon, selon les Tchèques avec le championnat du monde, c'est souvent Dostal, l'homme de confiance, mais Karel Vejmelka pourrait être le gardien numéro un de l'équipe canadienne, s'il était canadien. Donc, ils ont quand même deux bons gardiens. C'est une équipe talentueuse qui est un petit peu dans les mêmes eaux que, bon, peut-être un petit peu après, mais dans les mêmes eaux que la Suède, la Finlande.
Et la carte cachée, peut-être, l'assistant entraîneur Tomáš Plekanec.
Oui.
Ça va être à surveiller aussi.
Avec son col roulé.
Exact.
Je ne sais pas s'il dirige avec un col roulé. Qui gagne le groupe? Canada?
Canada.
Oh, okay, oui. Parfait. On regarde ce qui se passe dans les autres groupes. Bon, les États-Unis, est-ce que cette recette de Bill Guérin va réussir? Est-ce que la sauce va lever? On a laissé Cole Caulfield de côté, on a laissé Jason Robertson de côté. On y a été pour ce qu'on a dit, on a formé une équipe. Correct. Mais à un moment donné, c'est du hockey international. Ça te prend des buts. Est-ce qu'on a laissé trop de potentiel offensif sur le banc pour avoir une équipe justement complète selon vous?
Ben ça, c'est le pari de Bill Guérin. C'est le pari des décideurs de l'équipe américaine. Oui, on pense à Caulfield, on peut penser à Jason Robertson, on peut penser à Alex DeBrincat, on peut penser à Lane Hudson, les joueurs qui ont été ignorés. Mais ça reste malgré tout une équipe hyper talentueuse avec Jack Eichel, les frères Kachuk, Dylan Larkin. La ligne bleue aussi, l'unité de défenseur de l'équipe américaine, c'était une force à confrontation des quatre nations. Ça restera une force pour les Jeux olympiques. Zach Werenski, Quinn Hughes, Brock Faber, c'est pas un mauvais top 3 à la défensive. Tu rajoutes Jacob Slavin. Slavin, il avait été extraordinaire aussi contre l'équipe canadienne quand tu lui donnais les missions défensives.
Devant le filet
aussi, ils ont trois gardiens, quand même, le Connor Hellebuyck, Jake Oettinger puis Jeremy Swayman. C'est pas mauvais du tout. Donc, les États-Unis, sur papier, n'ont rien à envier à l'équipe canadienne. Sauf peut-être le talent brut, là, le talent de point vraiment exceptionnel. Je donne un avantage au Canada.
C'est qui marque le but important, le but de la victoire dans le talent de pointe? En 2010, c'est le talent de pointe, c'est Crosby. Aux Quatre Nations, c'est McDavid qui marque le but important. Puis il manque ça. Auston Matthews, j'ai des doutes sur Auston Matthews dans le match qui compte. J'ai énormément de doutes. C'est une excellente équipe, les États-Unis.
Mais on va être honnête. Matthews a passé à quelques millimètres d'être le Connor McDavid à la confrontation des quatre nations. Jordan Binnington réussit son arrêt le plus spectaculaire en prolongation contre Auston Matthews.
Mais Jack Hughes a
tendance à s'effacer dans les grands rendez-vous. Voyons voir. La pression va être du côté aussi de ces chevaux-là. Bill Guérin a choisi de miser sur pratiquement la même formation.
par rapport à ça, dans la discussion que j'ai eue avec Julien Brisebois, je l'ai amené sur justement le fait que, tu sais, le second guessing, puis les observateurs qui... Tu sais, le Canada est plus ou moins sur le feu des critiques, là. En tout cas, beaucoup moins que Bill Guérin du côté des États-Unis. Mais tu sais, il est comme parti à rire parce qu'il dit « On a tellement mis d'heures à analyser mm-hmm. des vidéos, à projeter des scénarios, à faire des... » Il y a tellement de travail puis d'analyse qui est... Tu sais, toutes les questions qu'on se pose sur Caulfield, sur Robertson, sur... C'est sûr que Bill Guérin et son équipe se les ont posées dans le processus de 2 ans qui a mené à la création de cette équipe-là. Donc, eux en sont arrivés au constat que c'était ça la meilleure équipe qu'ils pouvaient mettre sur pied. Après ça, on pourra juger par les résultats. Mais je trouvais ça drôle de poser un peu la vision de comme, ah, nous, on regarde cette équipe-là. Ah ouais, lui c'est peut-être meilleur. Mais tu sais, les dirigeants, il y a tellement d'heures qui ont consacré à ça qu'ils ont retourné chaque petite pierre. Là, peut-être du côté des États-Unis, ça paraît mal parce que il y a beaucoup de bons buteurs qui sont laissés de côté. Mais peut-être, là, je voyais qu'un JT Miller s'est blessé hier. Est-ce que ça ouvre la porte à, je dis pas réparer une erreur, mais tu sais, au moins amener un marqueur de plus avec l'équipe pour faire taire ces critiques-là, peut-être. Mais tu sais, je pense qu'on est confiant, on est aussi confiant du côté des États-Unis que du Canada d'avoir mis sur pied la formation qui peut nous permettre de gagner l'or.
Je vais amener l'image suivante. C'est que t'as beau avoir les meilleurs ingrédients au monde, si t'as pas la bonne recette.
Mm-hmm. Exact.
C'est ça la question, c'est est-ce que la recette était la bonne? À partir de là, effectivement, dans leur recette, ils ont pogné ce qui était le meilleur pour leurs ingrédients, mais je ne sais pas si on a la bonne recette.
Mais si tu regardes juste rapidement, Nick, là, les ajouts du côté de l'offensive, il y a 2 nouveaux visages, là. Ils s'appellent Tage Thompson puis Clayton Keller. Est-ce que tu peux réellement contester le choix de Tage Thompson, qui est un des meilleurs joueurs depuis la mi-novembre mm-hmm. de la Ligue nationale, puis Clayton Keller par les André Tourigny? Le mammouth est présentement se bat pour une place en série dans l'Ouest. Keller est un ingrédient clé de cette formation-là. Donc, écoute, on parle de 2 pays, Canada et États-Unis, qui ont toutes les ressources pour gagner la médaille d'or, mais les 2 pays ne sont pas à l'abri non plus d'une surprise de temps d'un match.
Et j'ai hâte de voir l'effet Ketchuk, s'il va vraiment, parce qu'on en parle à cause des 4 nations, mais ça ne sera pas tout à fait le même type d'arbitrage, non. Mais ce ne sera pas si loin non plus. Le IHF veut se rapprocher un petit peu de l'arbitrage Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, les officiels, c'est 13 LNH, 13 IHF, donc... Puis c'est une patinoire de grandeur nord-américaine, donc il y a. Puis même plus petite, là, c'est ce qu'on a appris. Donc peut-être l'effet Ketchuk, mais Mathieu, depuis son retour, c'est pas parfait non plus. Donc ça va être la question. Puis Connor Hellebuck, on en a parlé, mais avec ses antécédents en série, on verra bien. La Suède, on les voyait dans le top 3, mais ils ont tellement de blessés. Leo Carlson, Jonas Brodin, Victor Hedman n'est pas à 100%, est revenu ce week-end. Landeskog, William Nylander qui vient de revenir, Joel Eriksson-Ek, qui a bien paru hier. Est-ce que tous ces blessés-là font qu'ils ne sont peut-être pas dans le top 3 comme on les voyait avec le Canada et les États-Unis?
Bien, je pense que lance un 25 sous dans les airs, là, juste Suède ou Finlande. Une journée, Suède. Tu peux dire Finlande, une journée, tu peux dire Suède.
Oui, tu trouves ça? Okay.
Mais je préfère la défensive suédoise avec Rasmus mm-hmm. Dahlin et compagnie, Gustav Forsling. Mais la Finlande, c'est une équipe qui jouent toujours bien ensemble. Il y a une unité qui se crée dans les grands événements. Mm-hmm. La perte d'Alexander Barkov, par contre, fera très mal aux Finlandais, mais ils ont quand même Mikko Rantanen, Sébastien Aho. Il y a du talent brut, Rupe Hintz. Jussi Saros peut être un des bons gardiens à ce tournoi-là. J'ai hâte de voir. Pour moi, c'est la plus grande curiosité, c'est qui sortira vainqueur de ce groupe-là entre la Suède et la Finlande.
Oui, absolument. Puis, on l'a vu souvent, Guillaume, la Finlande ont tellement leur style de jeu. Mais là, est-ce qu'on est désavantagé par le fait que c'est une patinoire Ligue nationale de hockey, l'arbitrage, ça ne sera pas l'arbitrage IHF? Cette structure-là, qui fonctionne tellement bien au championnat mondial junior, qui fonctionne au championnat senior aussi, puis tout ça, est-ce que tu penses qu'elle est un petit peu désavantagée, Guillaume, par rapport à ce qu'on montre en raison de... C'est un tournoi olympique qui n'est pas pareil comme les autres?
Je penserais pas, honnêtement. Tu sais, je regarde, quand tu compares les 2 équipes, c'est certain qu'il y a plus de force de frappe du côté de la Suède, là, mais je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de joueurs de rôle dans l'équipe finlandaise qui peuvent leur permettre justement de jouer ce style de jeu hermétique, tu sais, que ce soit sur une patinoire nord-américaine ou une patinoire internationale. Je pense pas que ça change la structure puis vraiment le niveau d'engagement des joueurs envers le système très, très hermétique qu'on veut mettre en place. Donc, moi aussi, tu sais, on s'est parlé hier au téléphone, puis je pense que moi et JF, on met la Finlande sur le podium devant la Suède, justement parce que je pense que cette façon de jouer-là va pouvoir vraiment leur permettre de surprendre ou de museler une équipe qui a plus de talent de pointe comme la Suède, leur grand rivaux dans ce groupe-là. J'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui peut nous surprendre pendant ce tournoi-là.
Alors, on parle du trio de gardiens des États-Unis, mais celui de la Suède, c'est pas piqué des verres. Qui vous envoyez comme partant, vous?
Philippe Gustafsson.
Gustafsson? Toi aussi, Guillaume?
Ouais. Gustafsson.
Je pense que c'est le bon choix, mais c'est pas... Encore là, je pense que les trois gardiens auraient pu être le numéro un du Canadien, du Canada plutôt pour ce tournoi-là.
On peut dire
là,
ça pour plusieurs équipes, je pense.
C'est ça, ça en dit long sur la situation avec le Canadien. Je sais pas, honnêtement, ça peut... Si c'était... Je serais extrêmement inquiet pour le Canada si ça avait pas été des quatre nations. Enlève le tournoi des quatre nations cette année, l'an passé, je serais extrêmement inquiet. En terminant notre petit tour des groupes, là, Slovaquie, est-ce que Juraj Stavkovski va pouvoir défendre son titre de joueur par excellence aux Olympiques?
Oui, hein, je lui en parlais ça avant son départ pour l'Italie. Puis même Stavkovski en riait en disant « Écoute, j'ai pas une plus grande pression. » Il dit « Oui, ça reste les Jeux olympiques, mais ce n'est pas le même tournoi. » Il dit « Quand il a gagné le titre de joueur le plus utile en 2022 à Pékin, bien, il n'y avait pas de McDavid, il n'y avait pas de Jack Eichel, il n'y avait pas de William Nylander, il n'y avait pas de Mikko Rantanen. C'était un autre tournoi, une autre formule. 7 buts pour lui en 7 matchs. Mais s'il y a une chose qui ne changera pas, c'est que Slavkovski va rester un moteur de son équipe, puis ils vont se tourner vers lui. Il veut agir comme un meneur au sein de l'équipe de la Slovaquie. Il va jouer avec son grand ami Simon Nemec. Il y a plusieurs joueurs qu'il connaît déjà, plusieurs joueurs qui étaient justement du côté de Pékin. Mais la Slovaquie a quand même des croûtes à manger s'il souhaite rivaliser avec la Finlande et la Suède dans ce groupe-là.
Je regardais les cotes, les parieurs, là, tout ça, là, puis... La Slovaquie est placée pas mal égale avec la Suisse et l'Allemagne. Mm-hmm. Quand je regarde les formations des trois équipes, je vois pas la Slovaquie dans le même type de groupe. Je vois pas, tu sais, Slavkovski est le meilleur joueur de son pays, puis à mon avis, c'est pas Leon Draisaitl, c'est pas Roman Josi, c'est un programme qui est jeune, hein, la Slovaquie. On en a parlé souvent que c'est un programme qui commence à se relancer. Mais moi, à mon avis, on va avoir de la misère, là, surtout que là, on se retrouve dans le groupe de la mort en partant. Je pense pas que la Slovaquie va pouvoir très bien paraître. On va se retrouver avec, en ronde de barrage, on va se retrouver avec un duel assez difficile en plus. Ouais. Donc, je les vois pas aller plus loin.
Quand je me souviens d'avoir posé la question à Slavkovski, à quoi pouvait ressembler l'objectif aux Jeux olympiques à Milan en termes d'équipe, il a simplement répondu « bien joué ». Donc, il n'a pas parlé d'une position. C'est une équipe qui avait gagné la médaille de bronze du côté de Pékin. Puis quand ils sont revenus à Bratislava, c'était une parade dans les rues de Bratislava. C'était la fierté nationale de gagner une médaille de bronze.
Mais là, un party slovaque.
Oui, oui. Puis Slav disait avec un sourire en coin qu'il était quand même triste parce qu'il y avait juste comme 48 heures du côté de la Slovaquie. Elle devait ensuite repartir. Lui, il partait du côté de la Finlande, mais il dit tout le monde repartait là, à gauche, à droite, là, en Suède, en Finlande, dans les championnats respectifs. Donc, pas eu le temps de partir pendant une semaine sur la brosse à Bratislava. Puis il ne faut pas oublier, il avait juste 17 ans. Donc, techniquement, ouais, devait boire du jus d'orange, le bon Juraj. Il avait 17 ans, des broches aussi dans la bouche.
Je pensais que tu allais dire qu'il était déçu parce qu'il était encore mineur à cette époque-là, mais c'est parce qu'il devait partir après 2 jours.
Oui, il devait partir après 2 jours.
Les gars, je vous amène. Question à rafale pour tout le tournoi avant d'y aller de nos prédictions. Quelle équipe, selon vous, va surprendre?
Ouais, je dirais peut-être la Suisse, même si j'ai dit que la Finlande peut surprendre, mais je pense que ce serait une plus grande surprise si la Suisse parvenait à causer l'attaque ou à remporter un match, à battre une équipe qui est considérée comme une des puissances. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Je pense
moi, je vais aller avec la Tchéquie. Si Guillaume prend la Suisse, je vais aller avec la Tchéquie.
Honnêtement, je ne sais même pas si la Tchéquie peut être considérée dans cette catégorie-là.
Ouais. Parce mais que sinon, c'est qu'il faut que tu tombes dans la catégorie.
Moi, j'ai la Tchéquie dans le top 5. Ouais. À la base, les parieurs au livre aussi, là, je sais que je parle beaucoup de ça, mais ça, c'est un peu... C'est qu'on a, il y a tellement pas eu de hockey olympique qu'on regarde ça, mais la Tchéquie, je pense que la Tchéquie peut se battre pour une médaille dès le départ. Fait que effectivement, la Suisse, j'ai la Suisse là, assez haut. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Suisse ou Allemagne, qui va le mieux performer? On parle de deux programmes en émergence en Europe.
Suisse.
Suisse aussi.
Suisse, parfait. Mmh. Vous n'avez pas nommé l'Italie. Je veux juste, pour la question, je veux juste le plugger. Ouais. Je veux juste le plugger. Phil Pietro-Niero, qui va être le seul Québécois qui va participer au tournoi, va jouer pour l'Italie. C'est un Montréalais de 31 ans qui vient d'une famille, là, les Pietro-Niero, ceux qui connaissent le hockey junior 3 et tout. Il a joué pour dans le hockey junior majeur un peu partout, là, Victoriaville, Gatineau, Shawinigan, puis roule sa bosse en Italie depuis ce temps-là.
Il est à Kladno, du côté de la Tchéquie. Il joue avec un certain Jaromír Jágr. Je crois que Jágr a joué 5 matchs cette année. À 108 ans, Jaromír Jágr est toujours un athlète professionnel du côté de la Tchéquie. Mais oui, c'est dans mes...
C'est dans tes cartes,
je,
ça,
oui, dire. Dans mes cartes, une entrevue avec lui. Je vais certainement me déplacer à un entraînement de l'Italie.
Bon, parfait.
Ben, ce qui est intéressant, je regardais quand même, l'Italie a décidé d'y aller avec des joueurs locaux, là, pas des joueurs de descendance italienne et tout ça, mais l'équipe qu'ils auraient pu bâtir avec des joueurs de descendance est quand même intéressante. J'avais vu la formation projetée là, de ce à quoi ça aurait pu ressembler, puis je trouvais que c'était une équipe qui aurait pu tenir son bout quand même dans ce tournoi-là. On a décidé d'y aller vraiment avec des joueurs italiens qui habitent là-bas puis qui ont grandi là-bas, donc c'est quand même une décision intéressante. Je comprends totalement la décision,
La France fait un peu ça aussi. Il fut une époque, là, on amenait peut-être un peu plus de Québécois, là, mais là, c'est plus proche. Quel joueur du Canada va connaître le meilleur tournoi?
Connor McDavid.
Moi, j'y vais par nostalgie avec Sidney Crosby. Je pense que ce serait... J'y vais pour les histoires. Je veux que GF ait du plaisir, ait de la facilité à travailler.
Pour l'histoire aussi, Macklin Celebrini, qui est le joueur le plus utile à l'équipe canadienne, le plus jeune.
Avant de gagner le trophée Hart, c'est ça que tu me dis?
Oui, c'est ça. Toi, Nick, c'est qui ton choix?
Moi, j'ai goût de dire Kyle Makar. Dans un setup comme ça, olympique, là, avec peut-être plus d'espace ou plus de j'ai hâte de voir ce que Kyle Makar va pouvoir faire sur les relances et tout ça. Peut-être un héros obscur, un joueur qui va peut-être sortir, pas nécessairement de l'ombre, mais justement, qui va mettre son équipe sur ses épaules.
Moi, je vais y aller avec Jussi Saros, la Finlande.
C'est une excellente question. Je sais pas. Peut-être. J'ai regardé aussi du côté de la Finlande. Peut-être un Arturi Lekkonen, un joueur des grands moments. Nous a habitués à ça quand même dans les dernières années. Donc, peut-être un but opportun, un moment opportun qui pourrait le transformer en héros finlandais. Là. J'y vais avec Arturi Lekkonen.
Parfait. C'est pas un héros obscur, là, mais David Pastrnak, je pense qu'il peut charrier cette équipe-là comme il fait avec les... Honnêtement, si la Tchéquie gagne une médaille, puis peut-être en finale, peut-être accéder à la finale, Pastrnak, justement, là, ce magazine de titre de héros obscur, pas héros obscur, mais de joueur par excellence du tournoi. Hey, vos prédictions, messieurs, on termine le balado là-dessus, bien évidemment. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze.
Je pense que Guillaume et moi avons vendu la mèche avec nos
comme vous faites
nos récents commentaires. Mais j'y vais. Canada sur la plus haute marche du podium. États-Unis, argent. Finlande, bronze.
C'est plate et très conservateur, mais c'est ça aussi. T'sais, j'aimerais ça y aller avec quelque chose de plus funky, là, comme une finale Canada-Tchéquie, quelque chose comme ça. Je pense que Nick, t'as l'air d'être enligné vers ça, mais j'y vais conservateur aussi. Je pense qu'on... T'sais, dans des tournois internationaux, il y a rarement de grandes surprises. Je pense que ce qui est sur papier se transpose sur la patinoire, donc j'y vais comme GF aussi.
Je vais... Écoute, juste pour le fun, Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai le goût de voir Canada-États-Unis en finale. Mais je vais dire Canada-Suède en finale.
Ça se peut aussi.
Puis les États-Unis, probablement, médaille de bronze contre la Tchéquie.
Ah, si les États-Unis ne passent pas en finale, le bronze va être le piège. La médaille que tu ne veux pas remporter.
C'est ça.
Mais...
Exactement. Je vais quand même leur donner là, okay. Pour pas qu'ils aient l'air un peu trop fous. Là. Mais tu me dis une défaite des États-Unis 2-1 contre la Suède en prolongation ou en tir de barrage pour atteindre
la finale. Dans le fond, tu veux un scénario où on pourrait blâmer l'absence de marqueur dans l'équipe américaine puis surfer sur cette vague-là pendant plusieurs semaines.
Tout compris. JF, là, on fait combien de temps qu'on fait le balado? Vous venez enfin de comprendre qui est Nicolas Ducharme.
Je suis surpris que tu n'aies pas choisi les Hurricanes ou les Stars de Dallas. C'est toujours ton choix pour qui va gagner la Coupe Stanley, c'est les Hurricanes ou les Stars.
Nick
va choisir les Hurricanes ou les Stars pour gagner la médaille d'or.
Hey, joueur par excellence.
Les Hurricanes, c'est un peu l'équipe finlandaise.
Oui, exact. Les Stars.
Oui,
mais joueur par excellence.
La Finlande, c'est pas de Barkov, ça leur fait trop mal.
Ouais,
c'est pour ça que je les ai pas dans mon. Dans
joueur
mon
par excellence, rapidement, moi, j'ai fait mes choix là, pour les collègues de LNHL.com. J'ai choisi le 97, Connor McDavid.
Ouais, Guillaume?
Je pense que j'irais aussi avec ça, là, même si j'aimerais ça que ce soit Sidney Crosby, mais de façon réaliste, je pense qu'on peut s'attendre à ce que McDavid survole cette compétition-là.
Et c'est fou parce que, je veux dire, Nathan MacKinnon est juste là. Là. Tu sais, tu dis Connor McDavid, c'est Connor McDavid, puis lui, il est dans le vestiaire. Je suis là, gang, je suis à peu près aussi bon, je fais autant de points que lui. Mais non, Connor McDavid, c'est comme un pool de hockey. Tu prends Connor McDavid, tu ne poses pas de questions. Il l'a prouvé aux Quatre Nations. Le gars, il est clutch. Il se fait 2 ans de fil qui amène les Oilers en finale. Je veux pas dire tout seul, mais en grande partie, grâce à lui, c'est Connor McDavid. C'est pas d'autre chose que ça. JF, on te laisse partir. Et c'est le cas de le dire. On te laisse aller à Mina. Attention, la pizza, les pâtes, ça va descendre dans tes foufounes.
Ça tombe dans mes cordes en plus.
Après 2 semaines.
Ouais.
Comment tu dis?
Ça tombe dans mes cordes. J'aime beaucoup. J'ai hâte de partager une pizza avec des collègues.
La pizza en entrée, là, c'est un classique Chaumont, ça.
On laisse les journalistes québécois nous donner bonne réputation à l'international. On le sait, on est reconnu pour le party dans tous les événements internationaux. Donc, JF qui va participer avec tout ça avec les Québécois. Chers auditeurs,
tiens-toi loin des Finlandais aussi.
Les Finlandais qui ont.
Je connais les Finlandais, Guillaume.
C'est très similaire, les pays nordiques. On va te parler durant la pause olympique, pas pendant le tournoi olympique à plusieurs reprises. Donc, chers auditeurs, abonnez-vous, suivez-nous, on va en avoir des balados. Moi et JF, on va parler de tout ça jusqu'à la fin du tournoi. JF, Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On s'en parle vraiment très bientôt.